Alors, Alain Gabriel Monod, Aïcha Dupois de Guitare, vous êtes réunis aujourd'hui autour de deux livres nés de votre collaboration. Le premier, Soie du feu sur l'étoffe du ciel, alors Soie, S-O-I-E, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Il s'agit d'une biographie d'Emilienne Kerouas, poète, aux éditions Calligramme, et c'est paru en 2023. Le second ouvrage s'intitule Bleu et le paysage, avec ce sous-titre La vie en poésie de Jean-Pierre Boulic, édition L'ombre des mots, et c'est paru en 2024. Alors, première question qui s'adresse à l'une et à l'autre, vous choisirez d'y répondre comme il vous siéra. Dans quelle vision, dans quelle approche commune de la poésie votre collaboration pour ces deux ouvrages a-t-elle plongé ses racines ?
Je crois que nous sommes tous deux ce qu'on peut appeler des passeurs, c'est-à-dire que nous avons à cœur de faire vivre des œuvres et des créateurs qui sont heureusement encore pour certains de ce monde, qui d'autres malheureusement ont disparu. J'avais eu pour ma part la grande joie, ce que je peux appeler le privilège, donc, de passer beaucoup de temps de ma vie avec Emilienne Kerouas, qui était une dame, donc, une poète très, très remarquable, qui aurait eu 100 ans en cette année 2025, qui s'est éteinte donc, il y a 5 ans. Et dans le même temps, je passais aussi pas mal de temps avec un poète plus jeune, donc, qui est Jean-Pierre Boulic, installé, lui, dans l'extrême nord-ouest du Finistère au Conquet. Et les chemins d'Aïcha et le mien se sont croisés à Landévennec, donc en presqu'île de Crozon. Et nous avons très vite compris, par quelque chose qui s'explique d'ailleurs, je crois, assez peu par l'abstraction, mais plutôt de manière, à la manière d'une évidence de l'instant, que si nous ne pratiquions pas le même art, à elle, donc, comme vous l'avez dit, la peinture et la photographie, à moi plutôt le bruit des mots, eh bien nous aurions sûrement beaucoup à faire ensemble, et qu'il nous plairait de rendre hommage à ces créateurs que souvent on trouve plus grands que nous. Il m'est arrivé souvent de penser que le monde de la littérature est un monde qui est parfois un peu vain, au mauvais sens du terme, c'est-à-dire au sens de la prétention. Et quant à moi, j'aime surtout passer, j'aime rendre hommage. Mmh.
Alors, vous avez rendu hommage à de nombreux auteurs dans ce livre, Géographie littéraire de Bretagne, et dans bien d'autres, hein, bien sûr. Alors, les deux ouvrages qui sont à notre menu d'aujourd'hui, dans Page Blanche, ces deux ouvrages sont des biographies, certes, dédié donc à Emilienne Kerouas et à Jean-Pierre Boulic, qui a été mon invité il y a bien des années aussi. Et le redécouvrir me donne envie de le revoir à ce micro. Donc, vous voyez, vous êtes aussi un fervent dans ce domaine. Et les deux ouvrages associent texte et photographie. Et pourtant, il me semble, et vous allez me dire ce que vous en pensez, il me semble qu'ils sont de conceptions différentes. Fondamentalement différentes. Alors, est-ce que vous souscrivez à ma remarque ? Et si je ne commets pas d'erreur, en quoi est-ce que ces ouvrages diffèrent ?
Alors, je vais me permettre de répondre encore avant de laisser Aïcha parler. Effectivement, vous avez entièrement raison, ces deux ouvrages sont tout à fait différents. Mmh. Le premier des deux, celui qui a été publié il y a environ 13 mois, donc à la toute fin de l'année 2023, celui consacré à Emilienne Kerouas, « Soie du feu sur l'étoffe du ciel », plus qu'une stricte biographie, est avant tout ce qu'on pourrait appeler un essai, un précis d'admiration, consacré donc à Emilienne Kerouas. C'est un livre qui est aussi très écrit. La biographie de Jean-Pierre Boulic, c'est un ouvrage qui est beaucoup plus factuel. Nous avons voulu donc rendre hommage de manière très simple à un homme qui est notre contemporain, qui est là aujourd'hui parmi nous en rapportant les faits de sa vie à côté de... On essayait de savoir en fait qui était à côté du poète dont on pouvait lire avec plaisir et avec souvent beaucoup d'émerveillement les poèmes. On essayait de savoir qui était dans la vraie vie, entre guillemets, ce Jean-Pierre Boulic. Donc effectivement, c'est un ouvrage simple, c'est un ouvrage qui narre la vie d'un homme, S'agissant d'Emilienne Kerouaz, c'est un ouvrage qu'on peut dire plus écrit.
Mmh. Aïcha ?
Et pour les photographies, c'était également une démarche complètement différente. Pour le livre sur Emilienne Kerouaz, j'ai souvent l'habitude de dire que c'était un rendez-vous manqué. Je n'ai hélas jamais connu Emilienne. Mais tout le monde m'en a tellement parlé autour de moi que j'essayais de la connaître à travers les connaissances qu'elle avait, artiste, peintre, sculpteur, écrivain. Et Alain Gabriel m'a permis de mieux la rencontrer, vraiment. Et j'ai essayé d'aller sur ses pas. Et dans les paysages ou les lieux où elle a vécu, qu'elle a profondément aimé et qui l'ont inspirée pour toute son œuvre. Et j'ai essayé de proposer un regard photographique comme si c'était celui d'Emilienne. J'ai essayé de ressentir ses émotions à travers ses poèmes qui me touchaient déjà personnellement. Et l'idée, c'était d'offrir le regard qu'Emilienne portait sur ce qui l'entourait. Et le livre, par contre, qui est sur la poésie de Jean-Pierre Boulic, est complètement différent dans le sens où je connais bien Jean-Pierre Boulic, j'apprécie beaucoup humainement déjà, et dont j'apprécie énormément le travail. Et là, c'est lui qui nous invite à découvrir sa poésie. Donc on le suit. Mmh. Et donc là, c'est d'ailleurs ce qu'on a fait exactement. Quand on est allé à sa rencontre plusieurs fois au Conquet, dans ces paysages où il marche chaque jour, eh bien, on l'accompagnait, ça c'est pas. Donc là, l'idée, c'était de le suivre dans ses inspirations, dans son cheminement, dans sa marche. Et de temps en temps, il y a une apparition, un émerveillement, et puis on reprend la marche.
Mmh. Voilà. Alors c'est vrai que techniquement, vous avez rencontré Jean-Pierre Boulic une quinzaine de fois, je crois, si j'ai bien lu ce que vous avez écrit dans l'ouvrage, et que ça a donné lieu finalement à je ne sais pas si vous avez procédé par des enregistrements ou simplement de la prise de notes, mais un contact absolument direct.
Oui. Jean-Pierre Boulic a eu la gentillesse de me recevoir plus d'une dizaine de fois dans sa maison, donc qui est à l'aplomb donc de la Ria du Conquet, et nous avions des entretiens qui duraient 2 heures environ. Et à chaque, alors, je n'ai pas l'habitude d'enregistrer, mais je note très scrupuleusement donc ce que me dit le poète ou l'écrivain que je cherche donc à mieux connaître. Aïcha est venue avec moi un certain nombre de fois, et ça a été également pour Jean-Pierre l'occasion de nous faire découvrir vraiment d'une manière qu'on peut dire très aimante ce pays où il vit donc depuis bien longtemps maintenant et qu'il aime passionnément. C'est un petit Brestois en fait, Jean-Pierre Boulic, qui est né donc à la toute fin de l'occupation et qui, à l'âge de 8 ans, par le hasard d'un séjour estival, a découvert le Conquet. L'âge adulte venu, c'est là qu'il a voulu venir et c'est là qu'il arpente donc ses paysages depuis de nombreuses décennies. La démarche d'écriture chez lui est toujours précédée par une très longue marche matinale sur ses paysages, donc du bout du monde, à la pointe Saint-Mathieu, au Conquet, et avec ce qu'il appelle joliment les îles d'Ouessant et de Molène à sa fenêtre.
Voilà. Alors, Aïcha, Alain Gabriel, je vais utiliser les prénoms par commodité de langage. Commençons, si vous le voulez bien, donc par Soie du feu, sur l'étoffe du ciel, une vie d'Emilienne Kerouaz. Alors, moi, de manière très mécanique, je suis allé voir la fiche Wikipédia d'Emilienne Kerouaz. Elle est extrêmement succincte. Ses ouvrages sont aujourd'hui quasiment introuvables. Elle a été très peu rééditée, sauf en 2014, je crois, une toute petite partie. Alors, moi, j'ai envie de vous demander, vous qui l'avez côtoyée, vous qui l'avez connue, qui était cette figure majeure de la poésie en Bretagne? Comme je le disais, vous en avez été proche, Alain Gabriel Monod, et ce livre se veut un hommage, si je vous ai bien lu, à la femme éprise de liberté qu'elle était. Oui, et il y a tout cela derrière.
Oui. Donc, comme je le disais tout à l'heure, né en 1925, Emilienne Kerroas, c'est quelqu'un pour qui, effectivement, je pense que le mot fondamental pour elle, à côté du mot poème ou du mot poésie, était le mot liberté. C'est une jeune fille qui, très tôt, montre des velléités d'indépendance extraordinaire, au point sans doute d'ailleurs de fâcher ses parents ou de fâcher sa mère. En tout cas, elle est d'une intelligence très vive également. Et comme les meilleurs élèves donc, des classes sociales modestes, eh bien, elle va intégrer l'école normale d'institutrices, de, non pas d'ailleurs de Quimper, mais de Saint-Brieuc.
De Saint-Brieuc, boulevard Lamartine.
Voilà, ce qui fait qu'elle connaîtra très bien Saint-Brieuc, et elle va connaître le Saint-Brieuc de l'occupation. Elle dira d'ailleurs qu'elle a été, les Allemands étant en ville, eh bien, elle s'est dit prisonnière de l'école normale. Alors de temps en temps, comme elle est très facétieuse, eh bien, elle arrive à s'échapper quand même, à revenir dans son Finistère natal, où l'attend donc son fiancé, Jacques Kerroas, donc, qui sera connu pour d'autres raisons, puisqu'il a été en 1964, il y a un peu plus de 60 ans, donc maintenant le créateur des classes de mère.
Classes de mère, oui.
Jacques et Emilienne Kerroas donc, étaient un couple d'instituteurs, je crois, extrêmement remarquables, très intelligents l'un et l'autre, très, très ouverts, très optimistes aussi sur eux qui avaient vécu les horreurs de l'occupation quand ils avaient entre 15 et 20 ans. Était très optimiste sur ce que devait être l'humanité, comment elle on pouvait malgré tout accorder un peu de foi, un peu de confiance, un peu de clarté dans l'humanité. Donc, en plus de leur travail d'enseignant, qui a été un travail qui les a passionnés, Emilienne a mis toutes ses forces donc, au service de la poésie. Vous l'avez dit de manière extrêmement discrète. Elle était reconnue à son époque. Mais elle a souvent été publiée dans des petites plaquettes chez des éditeurs peu connus.
Ou en auto-édition aussi,
un petit peu en auto-édition, mais elle était quand même suffisamment reconnue pour avoir des éditeurs qui pouvaient l'éditer à quelques centaines d'exemplaires. Et puis son époux, donc, lui, a consacré ses forces vives donc, à cette belle invention des classes de mère. Il s'étonnait que les enfants soient un peu prisonniers dans les classes... toute la journée, et s'étonner notamment que les petits Brestois, pour certains, n'aient jamais vu la mer.
Alors, vous aviez consacré à Alain-Gabriel Monod un chapitre de votre géographie littéraire de Bretagne, paru en 2020 aux éditions Ouest-France, à Emilienne Kerroas, et vous reprenez ici une phrase de votre présentation, c'est à la page 13, je la cite, « Aînée de trois enfants, elle est d'abord dans la multiple splendeur de la côte nord du Finistère, sur les belles plages sauvages et nues de Kerlouan et Brignogan, une petite fille qui ne ressemble pas aux autres. » Alors, moi j'ai envie de vous demander en quoi cette petite fille est-elle différente? Vous avez commencé à l'aborder d'ailleurs. Et comment l'enfant sensible, solitaire, annonce-t-elle l'œuvre à venir? Ou bien, en d'autres termes, qu'est-ce qui relie cette œuvre à l'enfance, précisément?
Oui, alors je suis tout à fait persuadé qu'il y a deux versants chez Emilienne Kerroas. Il y a à la fois, effectivement, une immense sensibilité, et puis il y a aussi beaucoup d'espièglerie. C'est-à-dire que c'est une petite fille, justement, qui s'amuse à énerver un petit peu sa maman, à s'enfuir, à faire des fugues sur ces longues plages de la côte nord du Finistère. Et je pense que j'ai toujours tendance à penser qu'en matière d'écriture ou d'art en général, tout est dans l'enfance. Et chez Emilienne, il y a très tôt un amour qui est absolument incommensurable, qu'on ne peut comparer à rien. Donc pour justement ces lieux qu'elle appelle ces lieux élus, il y en a deux pour elle en Bretagne. Il y a donc ces plages qu'elle persistera toute sa longue vie de plus de 90 ans à trouver magnifiques, les plages de Brignogan et de Kerlouan. Et puis, il y a les montagnes d'Arrée, les monts d'Arrée, où elle a passé aussi des moments qui sont des moments de solitude, des moments de promenade, notamment durant les 7 années où elle a enseigné donc, à Saint-Cadou, au cœur donc, de ces monts d'Arrée, quand elle était jeune institutrice. Et c'est ce qu'a su admirablement faire Aïcha, c'est-à-dire retrouver ces lieux 50 ans après qu'Emilienne les ait foulés. Et qu'il s'agisse de la montagne d'Arrée ou qu'il s'agisse donc du littoral, eh bien de les photographier. Mais c'est plus ici que de la photographie, c'est d'une certaine manière, une sorte de poésie en action.
Absolument. Alors justement, j'allais m'adresser à vous, Aïcha. Votre regard de photographe, il accompagne Emilienne Carroirs tout au long de son cheminement physique et géographique, évidemment, sur les lieux mêmes, dans un partage des lieux matérialisé par l'image, bien sûr. Mais l'image, la photographie, comme le disait Alain Gabriel, elle va bien au-delà de la représentation physique d'un lieu. Elle va bien au-delà. Elle offre, peut-être comme le poème, une vision personnelle, une vision intérieure, une vision tout à fait unique et presque secrète qu'il faut découvrir dans l'image. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ?
Chaque photo a été composée comme un poème. Pour moi, la poésie, c'est aussi bien les mots, la musique, la danse, l'image. Donc effectivement, chaque photo a été composée de cette manière. Et pour la composer, j'ai pris beaucoup de temps. Je me suis imprégnée de l'espace, des éléments, et avec ce sentiment de liberté immense. J'ai dormi sur les lieux, dormi dans les monts d'Arrée, j'ai dormi sur la côte sauvage.
Vous êtes parti en van, je crois.
Oui.
Il me semble avoir lu ça quelque part, vous avoir entendu en parler. Ça n'a pas été deux hivers, je crois.
Ah oui, oui, oui. En janvier, les lumières en janvier.
Voilà, ça n'a pas été facile quelquefois. Il ne faisait pas chaud.
Non, ça, c'est pas chaud. C'est pas chaud, mais c'est le froid qui permet le silence et la solitude, et c'est ce que je viens chercher. Et pour vraiment s'imprégner des lieux, vraiment les vivre intensément. Parce qu'il ne s'agit pas de juste prendre une photo et de repartir, ça n'a pas de sens. J'ai l'impression de trahir un peu le paysage, de voler son image. Et là, c'est plutôt de composer un poème que j'ai écrit, sauf que je n'ai pas les mots. Ce sont les mots d'Emilienne. Emilienne qui a eu des mots qui ont résonné en moi, comme le mot sauvage, le mot brut, le mot liberté. Tout cela a beaucoup de résonance en moi. Donc, c'était pas difficile, en fait, de passer autant de temps sur les lieux et de marcher comme elle, parce que c'était une femme, dans les années 50, je pense pas qu'il y avait beaucoup de femmes qui marchaient sur les crêtes, juste pour le plaisir de l'inspiration. Et de me retrouver sur ces pas, des paysages qui sont restés inchangés, en plus, que ce soit dans les monts d'Arrée, Daoulas n'a pas beaucoup changé non plus, la forêt du Kranou, que ce soit la côte nord. Donc on peut retrouver ces émotions, et ça c'est une grande chance. Donc effectivement, de la poésie à la photo, il n'y a qu'un pas.
Il y a des liens évidents.
Oui.
Je vous propose de se donner le temps d'une petite pause musicale. On va écouter le morceau choisi par Alain Gabriel. Il s'agit d'Alberta, donc ici par Eric Clapton, sur l'album Unplugged, et on l'écoute. Alain Gabriel Monod, votre choix judicieux, là, on est sur la route, là.
Ah oui, c'est une musique qui donne envie de prendre la route.
Voilà, voilà, tout à fait. Alors, on en revient à vous, Aïcha. Il y a un choix éditorial dans cet ouvrage, je crois. Les photographies ne sont pas directement légendées. Photographie, il n'y a pas de légende en dessous pour savoir ce qu'on voit. On est responsable finalement de ce qu'on voit, totalement. Alors, elles apparaissent, j'ai envie de dire, dans leur vérité brute, immédiate, et elles demandent peut-être au lecteur curieux de se reporter à la partie intitulée « Apostille photographique ». J'adore le mot « apostille », il faut les faire vivre, c'est beau, qui est à la fin de l'ouvrage où sont listées toutes les références photographiques. Mais j'ajouterais que ces références, ces légendes, si elles localisent parfois les lieux véritablement de la prise de vue, elles portent avant tout, finalement, sur une impression. On peut donner quelques exemples, hein, c'est à la page 114, voilà des légendes. Légende de la photo, page 36, puissance tellurique de la montagne aux pierres bleues. Bon, on ne sait pas où c'est, mais enfin, on se doute un peu. Et puis si on connaît les paysages, ça évoque quelque chose. On a liberté intérieure d'un jardin secret. C'est pour la photo de la page 44. Alors on a des choses plus précises. Par exemple, 55, des ruelles qui s'ouvrent sur les eaux paisibles de la Rade, le bourg du Faou, aux confins des mondes. On dit du fou, il me semble. Hein. Voilà. Alors là, on sait, c'est plus précis. Page 67, le show de la Renaissance, etc. etc. On pourrait multiplier les exemples parmi toutes ces photos. Et moi, je me suis demandé, est-ce qu'il faut voir dans ce choix éditorial, est-ce qu'il faut voir dans cette dissociation de l'image et de sa légende, finalement, la volonté de laisser au lecteur cette liberté si chère à Emilienne Carroas?
Voyons. Toutes mes photos, la plupart du temps, effectivement, ne sont pas légendées. On n'est pas dans un guide touristique, surtout pas. Et si on dévoile tout le mystère, ben on détruit la poésie. Donc il y a une évocation. Et justement, Emilienne parlait beaucoup de l'invisible. Et c'est ce qu'elle essayait de révéler avec ses mots. On essaye de révéler aussi avec l'image, mais pas trop. Parce qu'après, il n'y a plus d'étonnement. S'il n'y a plus d'étonnement, on est dans l'attente, quelque chose qui est dû. Et là, on perd toute la magie. Donc c'est à la fois pour préserver le regard du lecteur et aussi préserver les lieux, pas qu'ils deviennent un pèlerinage, un paysage instagrammable. Donc c'est pour le lecteur et aussi pour les lieux. C'est une protection nécessaire aujourd'hui. Mmh.
Alors, femme libre, certes, mais vous l'avez dit tout à l'heure, Alain Gabriel, elle est élève à l'école normale d'institutrice de Saint-Brieuc, boulevard Lamartine. Elle aura René Guillou pour professeur de lettres, l'épouse de Louis Guillou et... Dans ces années particulières, dans cette période de l'occupation, elle va fréquenter la rue Lavoisier. Elle va fréquenter la famille Guillou, devenir amie et proche d'Yvonne, leur fille. Alors, est-ce que l'on peut dire que cette proximité va influer sur Emilienne Carroas, sur son écriture et sur son approche de la littérature? C'est presque une réponse évidente.
Oui, alors j'en suis absolument persuadé, même si Louis Guillou donc, est délibérément romancier, oui. Et sera un romancier. Emilienne Carroas ne va jamais déroger de son souci têtu d'être poète. Un moment, dans les années 60, au début des années 60, elle n'a une petite quarantaine d'années, elle pensera à écrire un roman. Et elle est toujours en lien avec Louis Guillou, plus de 20 ans après l'avoir rencontré, du temps où elle était donc lycéenne à l'école normale, donc l'institutrice de Saint-Brieuc. Et dans les années 62-63, il y a un échange de correspondance entre elle et lui. et Guillou, qui est un pédagogue dans l'âme, bien qu'il ne fût pas professeur, à la différence de sa femme, lui recommande, voilà, lui donne des conseils, comment écrire un roman si elle veut s'y lancer. Mais finalement, ce n'est pas la voie VOIE ni la voie VOIX que choisira Émilienne qui va renoncer à ce projet de roman. Pour autant, l'influence de Guillou sur elle sera une influence absolument déterminante parce que Guillou, en fait, lui a donné, à défaut de lui donner comment dire, la vocation de devenir romancière, il lui a donné d'excellents conseils de lecture. Mona Ozouf le dit aussi très bien dans son excellent ouvrage « Composition française ». Elle montre, comme Émilienne le rapportait également, à quel point Louis Guillou et son épouse Renée étaient d'excellents critiques littéraires en leur temps. Ils savaient laisser de côté ce qui était la mode du temps, qui ne, forcément ne serait pas ce que la postérité retiendrait. En revanche, ils avaient un œil très acéré sur ce que pouvait être une bonne littérature. Mmh.
Alors, le premier recueil d'Émilienne Carrois, c'est Saint-Cadou, c'est le titre. C'est le nom du village, du petit bourg où elle se trouve nommée avec son époux. C'est sa première affectation, sa deuxième affectation. Elle a été 3 ans à Locmélard, je crois,
voilà,
juste
alors,
avant.
Émilienne parlait très peu de Locmélard, qui est en fait sa véritable première affectation au sortir de l'école normale.
Voilà.
En revanche, entre 1950 et 1957, elle va passer 7 années qui seront, je crois, 7 années absolument merveilleuses à Saint-Cadou. Donc il faut se figurer Saint-Cadou comme étant ce minuscule village des Monts d'Arrée. Et là, elle va trouver ce qu'on peut appeler, ce qu'André Breton appelait la liberté grande. Et elle va adorer ses élèves, elle va adorer son métier d'institutrice. Et puis la journée d'institutrice étant finie, comme le disait Aïcha tout à l'heure, les marches éternelles sur les crêtes. Et je crois que c'est à regret que la famille Cadou quittera en 1957 Saint-Cadou pour descendre la montagne et s'installer en Fondrade, donc pour quelques années à Daoulas.
Daoulas. Alors, à propos de ce recueil, donc Saint-Cadou, vous écrivez ceci, Alain-Gabriel Monod, c'est à la page 39, je vous cite, « Significativement, les deux poèmes qui closent ce recueil liminaire disent, pour le premier, « Saint-Cadou, terre, mon repos », le lieu élu qu'est le village de Saint-Cadou. Pour le deuxième, « Confluence », le goût de tous les ailleurs. Et je ne sais rien de plus pertinent dans une émission consacrée à la poésie que de donner à entendre ces deux poèmes à nos auditeurs. Alors, on va mettre Aïcha à contribution, si elle veut bien nous les lire. On l'écoute.
Saint-Cadou, mes paysages, ô nourriture. Terre, mon repos, je confie mes peines aux branches pour qu'elles les peignent d'or. Mon amour creuse les chemins, les cailloux, les épines l'éprouvent. La lande aux bras griffus confère au songe une réalité, reste près de la terre, chuchote l'herbe heureuse. De leurs courbes lourdes gorgées, les collines versent le miel, le vent s'éprend de mon haleine. Les collines de ma mémoire, car j'ai souvent besoin de ne plus exister que de l'âpre exigence des bruyères fidèles, les yeux éblouis dans la fraîcheur des terres, pour muette écouter battre le pouls du monde. J'ai choisi d'être à la confluence des routes, celles qui mènent à la mer, celles qui mènent aux terres, abreuvées de soleil, celles qui mènent aux mares silencieuses où personne ne va. Je choisis d'être à la confluence des couleurs, dans la chatoyance du prime. Je choisis d'être à la confluence des visages, levés vers la clarté, au point où s'enfle le fleuve de lumière, où la douceur humaine, sevrée de la douleur, palpite comme un pouls. Ô confluence heureuse, de la sève et du songe, où la brume s'emperle, des roses de l'été, où les tiges vivantes emprisonnent un visage, dans la douceur des blés, où les fruits sur la table ont le goût de ma vie, casanière, et errante, au liseré de ciel,
Merci, merci beaucoup pour cette lecture. Alors, je reprends ces deux points. Le goût de ma vie casanière est errante. Mais c'est une errance mentale. C'est une errance de l'âme ici, bien plus qu'une errance géographique. Cette errance dont Émilienne Carroix nous parle, cette errance, moi je la vois, et vous me direz ce que vous en pensez, comme une disponibilité au monde, une disponibilité à l'autre. Est-ce que c'est pas un peu ça ?
C'est exactement cela. Émilienne Carroix, donc, par son métier et par le fait qu'elle a été très tôt maman de 4 enfants, puis d'une 5e enfant, c'était une mère de famille nombreuse, donc, s'est trouvée en fait souvent empêchée de voyager. Elle aurait voulu, je crois, voyager davantage. Elle aimait passionnément sa Bretagne, mais elle aurait voulu aussi ouvrir davantage ses horizons. Alors, elle a pu quand même, parfois, dans son existence, aller à Paris, aller à Venise, enfin, découvrir quelques beaux endroits du monde. Mais le plus souvent, cette vie casanière dont elle parle, eh bien, c'est celle, justement, de l'institutrice d'un hameau dans les Monts d'Arrée. C'est la maman de 5 jeunes enfants, etc. Donc il y a une disposition, effectivement, à tous les ailleurs. Il y a une ouverture au monde, mais cette ouverture au monde, souvent, physiquement, elle est empêchée, et mentalement, elle est grande ouverte. Mmh. Elle est grande ouverte.
Alors, on ne pourra pas tout révéler de votre livre. Il est d'une grande densité, d'une grande richesse aussi. Néanmoins, autour d'Émilienne, comme autour de chacun d'entre nous, la mort rôde. Et parfois, elle nous atteint. Il faut le dire, il y aura autour d'elle beaucoup de douleurs. Il y aura la mort de son père en 1971, la disparition de proches comme sa sœur et son frère, voilà. Et puis de son mari, plus tardivement, en 2015. Et d'une de ses filles en 2015, son mari en 1992, hein, pour corriger mon erreur. Alors, écrire, créer pour tout artiste n'est pas sans lien avec le rejet ou avec l'acceptation de la mort. Et écrire, c'est une manière parfois aussi de survivre et de se survivre. Quel rapport la poésie d'Émilienne Carroix entretient-elle avec cet aspect de la vie qu'est la mort ? C'est une poésie lumineuse. Mais dont la mort n'est pas absente, néanmoins.
Oui, je crois que vous avez entièrement raison. Les deux versants cohabitent, avec d'ailleurs beaucoup de grâce dans cette poésie. C'est-à-dire qu'Émilienne, c'est d'abord quelqu'un qui est farouchement vivante. C'est quelqu'un qui est, comme on l'a déjà dit, éprise de liberté, éprise de tout ce qu'il y a de beau dans la vie, qui communie dans l'ensemble des arts, qui aime la musique, qui aime toutes les littératures, qui se pique de philosophie, qui veut vivre, qui donne à ses enfants une entière liberté. Et qui, en même temps, eh bien, est rattrapée par des drames. C'est d'abord, comme vous l'avez dit, la mort de son père, la mort de son frère, de sa sœur. Ce sera les deuils tragiques, la mort de son mari, Jacques Kerouas, prématurément, donc en 1992, va donner lieu à ce qui me semble être, le plus beau de ces recueils, celui qui s'appelle la pierre du jardin.
Ah oui, il y avait Inapaisable terre aussi.
Il y a Inapaisable terre qui évoque d'autres défunts, mais la pierre du jardin est spécialement écrit, composé, donc peu de temps après la mort donc de Jacques Kerouas. Je me permettrai.
C'est aux éditions Double Croche.
C'est tout. Voilà.
À la page 84, on peut peut-être vous entendre sur un de ses poèmes.
Oui, je veux bien, oui. Donc c'est un hommage à ce mari disparu, brutalement disparu. Comme issu d'un même œuf, nous étions jumeaux. Tu me laisses seul avec ce monde ancien. Me manque ton poids, la densité de ta présence, l'âpreté d'un combat silencieux où chacun était vaincu, vainqueur. J'étais saoul de fatigue et d'un peu de vin, à ce point où la fatigue est une volupté. La terre était cousue de ciel. Ma mémoire avait égaré ses étoiles. Ma mémoire trouée ne me contenait plus, mais ta force me remplissait. Toi, de mes morts, le plus radieux, avec ta provende de copains, de vers, de bateaux délestés, étant parti vers le soleil, je voudrais déterrer ton crâne, qu'il soit pour ma vieillesse, sujet de méditation.
Alors c'est très fort comme, comme évocation de l'amour qu'elle porte à cet homme.
Il y avait chez Émilienne quelque chose qui ne se cachait pas, ouais. qui était la joie de l'amour charnel. Mm-hmm. Là, il y a des voix poétiques qui sont plus pudiques, qui sont plus discrètes. Mm-hmm. Chez Émilienne, l'amour existait dans sa plénitude, dans quelque chose de très ensoleillé, de très lumineux, de très sensuel aussi. Et donc, c'est pour ça que chez elle, la mort apparaît... à la manière d'un véritable scandale, c'est un mot qu'elle employait souvent.
Mmh. Alors, on va être un peu pris par le ton, mais je voulais juste vous poser une dernière question à propos de ce livre. Vous écrivez votre nom, c'est pas vous, c'est votre éditeur qui écrit ceci, c'est à la page 119. Grand ami d'Émilienne Carroix, Alain-Gabriel Monod a entretenu avec elle une correspondance pendant une quinzaine d'années. Il a participé à l'hommage qui lui a été rendu en 2005 par la médiathèque de Landerneau à l'occasion de ses 80 ans. Avant sa disparition, il lui avait promis de réunir ses œuvres complètes et de lui consacrer un ouvrage retraçant son parcours. Alors vous n'allez pas y échapper, Alain-Gabriel Monod. Cet ouvrage consacré à Émilienne, je l'ai en main. Qu'en est-il des œuvres complètes ?
Alors ben, cet ouvrage, donc d'abord, je crois qu'il n'existe que parce qu'entre-temps j'ai rencontré Aïcha. Et cet ouvrage n'aurait pas été l'ouvrage qu'il est sans Aïcha. S'agissant des œuvres complètes, notre éditeur, donc Yvan Guillemot, qui donc est à la tête des éditions Calligramme, nous a promis qu'il les publierait. Alors c'est un travail de longue haleine. Pour les raisons que nous avons dites tout à l'heure, Émilienne a publié une trentaine de plaquettes. Certaines sont très difficiles à retrouver. Il y a aussi des obstacles administratifs, des obstacles financiers. Enfin, ce n'est pas si simple de réunir une œuvre qui est une œuvre de grande haleine, qui est une très belle œuvre, mais qui est une œuvre un peu perdue, un peu tombée dans l'oubli. Et justement, nous espérons bien que cette année 2025, qui ne fait que commencer, sera l'année de la publication de ces œuvres complètes sous l'égide des éditions Calligramme.
Voilà une très très belle nouvelle.